Chapitre 17. Croisière. Le programme de la vie quotidienne à bord avait été mis sur pied avec beaucoup de soin et, théoriquement du moins, Bowman et Poole savaient heure par heure ce qu'ils avaient à faire. Leur vie était réglée selon deux quarts de 20 heures chacun, qu'ils prenaient à tour de rôle, sans jamais dormir tous deux en même temps. L'officier de quart devait demeurer sur la passerelle de contrôle, tandis que son second inspectait le vaisseau et assurait les diverses tâches qui s'avéraient nécessaires lorsqu'il ne se relaxait pas dans son habitacle. Bien que Bowman fût officiellement commandant durant cette phase de la mission, un observateur extérieur n'aurait pu le deviner. Les deux hommes échangeaient totalement leur rôle, leur grade et leurs responsabilités toutes les 20 heures. Cela leur assurait un entraînement maximum, diminuait les risques de friction et augmentait considérablement l'efficacité du travail. Le quart de Bowman commençait à 600, selon l'horaire du vaisseau basé sur le temps astronomique. S'il était en retard, Carl disposait d'un choix appréciable de sonneries, carillons et bourdonnements pour le rappeler à son devoir. Mais jamais il n'avait eu à s'en servir. Poole avait une fois fait l'essai et débranché le circuit, Bowman s'était quand même réveillé à l'heure. Son premier devoir était d'avancer le programmateur d'hibernation de 12 heures. Si par deux fois au cours d'un quart cette opération n'était pas exécutée, Carl devait s'assurer de la neutralisation des deux hommes et prendre les mesures qui s'imposaient. Bowman procédait ensuite à sa toilette et à ses exercices physiques avant de prendre son petit déjeuner tout en consultant l'édition du matin du World Times, transmise par radio depuis la Terre. Jamais il ne s'y était intéressé autant qu'à présent. Les plus vagues rumeurs politiques, les plus ternes ragots captaient son intérêt. À 700, il relevait officiellement Poole sur la passerelle et lui apportait un tube de café. Si, comme c'était en général le cas, il n'y avait aucun rapport à faire, aucune décision à prendre, il se livrait à un examen général des appareils et des instruments et procédait à une série de vérifications destinées à révéler de possibles défaillances. À 1000, il avait fini et passait en phase d'études. Bowman avait été étudiant durant la moitié de son existence et il continuerait sans doute à l'être jusqu'à sa retraite. La révolution de l'information et de l'éducation lui avait permis d'acquérir des connaissances équivalent à 2 ou 3 programmes d'études supérieures et, ce qui était plus important, d'en conserver 90% en mémoire. 50 ans auparavant, il eût été considéré comme un spécialiste en astronomie, cybernétique et propulsion spatiale. Pourtant, il était prêt à nier sincèrement qu'il pût être un spécialiste en quelque discipline que ce fût. Jamais il n'avait pu se concentrer sur tel ou tel sujet en particulier. En dépit des avertissements de ses maîtres, il avait insisté pour choisir un premier degré en astronomie générale, discipline qui était le comble du vague et du flou, réservé à ceux dont le quotient intellectuel se traînait au-dessous de 130 et qui n'avaient plus aucun espoir d'atteindre le sommet dans leur branche. Ça avait été une sage décision. Le fait même de refuser toute spécialisation l'avait désigné pour cette mission. De la même façon, Frank Poole, qui s'intitulait parfois praticien en biologie spatiale générale, était un second idéal. À eux deux, avec l'aide de la vaste mémoire de Carl, ils pouvaient venir à bout de n'importe quel problème susceptible de surgir durant le voyage, pour autant que leurs esprits demeurent réceptifs et alertes et leur mémoire intacte. Ainsi, durant 2 heures, de 1000 à 1200, Bowman devait-il dialoguer avec le tuteur électronique. Ce dialogue était destiné à vérifier ses connaissances générales et celles qui concernaient plus particulièrement la mission. Sans cesse, il se penchait sur les plans du vaisseau, les diagrammes des circuits et les cartes des orbites, sur tout ce qui touchait à Jupiter, Saturne et leur lune. À midi, il se retirait dans le carré et abandonnait le vaisseau à Carl pour préparer le déjeuner. Il ne perdait pas pour autant le contact, puisque la petite pièce comportait une réplique du tableau situationnel et que Carl pouvait l'appeler à tout moment. Poole le rejoignait pour le repas, avant de se retirer à nouveau pour ses 6 heures de sommeil. En général, ils regardaient ensemble les programmes de TV retransmis depuis la Terre. Leur menu avait été établi avec le soin qui caractérisait toute la mission. Les aliments, pour la plupart surgelés, étaient excellents et ils avaient été choisis de manière à occasionner un minimum d'ennuis. Il suffisait d'ouvrir les paquets et d'en déposer le contenu dans le petit autocuiseur qui signalait la fin de la cuisson. Steak, côtelettes, rôtis, légumes, œufs, durs, au plat, brouillés, etc., fruits, jus d'orange, ice cream, tout cela avait le goût correspondant au nom et, ce qui était encore plus important, l'aspect. Il y avait même du pain frais. Après le repas, de 1300 à 1600, Bowman inspectait minutieusement le vaisseau, ou du moins la partie accessible. Explorateur 1 mesurait près de 120 mètres d'une extrémité à l'autre, mais le petit univers des deux hommes se limitait à une sphère de 12 mètres de diamètre. Là se trouvaient tous les systèmes destinés au maintien de la vie et la passerelle de contrôle qui était le cœur du vaisseau. Sous la sphère était aménagé un petit garage spatial pourvu de 3 sas destinés à larguer des capsules autonomes assez grandes pour abriter un homme et capables de se déplacer dans le vide pour toute mission à l'extérieur de l'astronef. La région équatoriale de la sphère, entre les tropiques du Capricorne et du Cancer si l'on veut, abritait un cylindre de 10 mètres de diamètre qui tournait lentement sur lui-même. Sa lente rotation, à raison d'un tour toutes les 10 secondes, suffisait à entretenir une pesanteur artificielle égale à celle de la Lune. Ce qui était suffisant pour éviter l'atrophie physique pouvant résulter d'une totale absence de gravité et pour permettre aux fonctions habituelles de s'opérer dans des conditions presque normales. Ce cylindre renfermait la cuisine, le carré et les toilettes. C'était seulement là que l'on pouvait préparer des boissons chaudes sans risquer d'être brûlé par une bulle d'eau bouillante, que l'on pouvait se raser sans être entouré de poils à la dérive. 5 habitacles avaient été aménagés sur la périphérie du carrousel. Chaque astronaute pouvait y ranger ses affaires personnelles, mais seuls ceux de Poole et Bowman étaient utilisés pour le moment, bien sûr. Les 3 autres demeuraient vides dans l'attente de leurs futurs occupants encore endormis. Il était possible, si on le désirait, d'interrompre la rotation du carrousel. Mais normalement, le cylindre tournait à vitesse constante et l'on y pénétrait facilement par le centre, où régnait la pesanteur, pour se déplacer ensuite vers la périphérie, ce qui n'offrait pas plus de difficultés que de monter dans un ascenseur. La sphère d'habitation constituait la pointe d'une sorte de flèche à la forme imprécise. Explorateur 1, à l'image de tous les astronefs destinés aux explorations lointaines, était trop fragile et pas assez aérodynamique pour pénétrer dans une atmosphère planétaire, pas plus qu'il n'aurait pu résister à un champ gravifique. Il avait été construit en orbite, autour de la Terre, essayé sur un trajet Terre-Lune. C'était un véhicule purement spatial. Immédiatement derrière la sphère étaient groupés 4 énormes réservoirs d'hydrogène. À leur suite, formant un V immense, se trouvaient les ailerons munis des vents qui permettaient de chasser la chaleur en excédent provenant des moteurs. Le fin réseau des canalisations de refroidissement leur donnait l'aspect d'ailes de libellules géantes et, sous certains angles, Explorateur 1 évoquait un ancien vaisseau des mers. L'enfer du réacteur principal, dûment isolé, et le complexe des électrodes qui canalisaient le flux incandescent du plasma se trouvaient à l'extrémité du V, à 100 mètres de la sphère d'habitation. Ils avaient fourni le gros de leur travail des semaines auparavant, lorsque l'astronef avait quitté son orbite lunaire. À présent, le réacteur ne fonctionnait plus que de temps en temps, brièvement, afin de fournir la faible énergie nécessaire à la vie interne du vaisseau. Les grands ailerons de propulsion, qui étaient portés au rouge lors des périodes d'accélération, étaient actuellement sombres et froids. Bien que des sorties dans l'espace fussent nécessaires pour des inspections détaillées de cette région de l'astronef, les instruments et les caméras indiquaient en permanence les conditions qui y régnaient. Bowman avait l'impression de connaître intimement le moindre centimètre carré des panneaux, radiateurs et canalisations qui composaient cet univers. À 1600, il achevait son inspection et faisait un rapport détaillé au contrôle de mission terrestre. Il ne s'interrompait qu'à l'accusé de réception. Il branchait alors son propre enregistreur, écoutait le message de la Terre et répondait éventuellement aux questions qui lui étaient posées. À 1800, Poole s'éveillait et il lui passait le commandement. Il disposait alors de 6 heures qu'il pouvait employer comme il le désirait. Il étudiait, écoutait de la musique ou regardait des films. La plupart du temps, il explorait l'inépuisable bibliothèque électronique du vaisseau. Il avait commencé à se captiver pour les grandes explorations du passé, ce qui était assez compréhensible dans ces circonstances. Il suivait Pythéas au-delà des colonnes d'Hercule, longeait les côtes d'une Europe à peine sortie de l'âge de pierre et se lançait dans les brumes glacées de l'Arctique. Ou bien, 2000 ans après, il coursait les galions de Manille avec Hanson, voguait en compagnie de Cook dans les dangers inconnus des récifs de la Grande Barrière ou accomplissait avec Magellan le premier tour du monde. Il s'était mis à lire l'Odyssée qui, entre tous les livres, l'emportait le plus loin dans les gouffres du temps. Pour se distraire, il pouvait affronter Karl en de nombreux jeux à base mathématique tels que les échecs ou les polydominos. En utilisant toutes ses ressources, Karl pouvait gagner toutes les parties, mais cela n'eût pas été bon pour le moral, et il avait été programmé pour un maximum de 50% de victoire, ce que ses adversaires humains affectaient d'ignorer. Les dernières heures de la journée, pour Bowman, étaient consacrées au nettoyage général et à de petites besognes. Ensuite, il y avait le repas de 2000 qu'il partageait à nouveau avec Poole. Puis, dans l'heure suivante, il pouvait échanger des messages personnels avec la Terre. Bowman, à l'exemple de tous ses collègues, n'était pas marié. Il n'était pas question de choisir un homme chargé de famille pour une aussi longue mission. Bien qu'il se fût trouvé de nombreuses épouses pour promettre d'attendre le retour de leur époux, nul ne les avait vraiment crus. Au début du voyage, Poole et Bowman avaient échangé des propos intimes avec la Terre au moins une fois par semaine, bien que la certitude d'être entendu par des oreilles étrangères eût tendance à les gêner quelque peu. Maintenant, alors que le voyage était pourtant à peine entamé, la fréquence de leur conversation avec des filles diminuait déjà, de même que le ton se faisait moins tendre. Ils avaient prévu cela. Ils en étaient des astronautes comme des marins. Mais il était vrai, et même notoire, que les marins avaient des compensations dans d'autres ports. Malheureusement, il n'existait pas la moindre île tropicale peuplée de sirènes au large de l'orbite de la Terre. Les médecins spatiaux, bien entendu, s'étaient attaqués à ce problème avec leur habituel enthousiasme, et la pharmacopée du vaisseau recelait des substituts efficaces, bien que peu séduisants. Avant d'achever sa journée, Bowman faisait un dernier rapport et vérifiait que Karl avait bien transmis tous les relevés. Puis, s'il le désirait, il pouvait encore lire ou regarder un film. Ensuite, il s'endormait, en général sans recourir à l'électronarcose. La journée de Poole était l'exact reflet de la sienne et l'écart se succédait sans friction. Ils étaient constamment occupés, trop intelligents et trop bien adaptés pour se quereller. Le voyage suivait une routine confortable, exempte de toute surprise. L'écoulement du temps n'était marqué que par le défilement des chiffres sur les horloges du bord. Le plus cher espoir de l'équipage d'Explorateur 1 était que rien ne vînt troubler cette monotonie paisible durant les semaines et les mois à venir.